les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous sommes cette semaine dans le grand studio 621 à Radio France à Paris, avec de nombreux invités, une séquence musicale acoustique et une grande annonce tout à l'heure. Il était venu il y a 2 ans pour présenter son premier roman publié chez Gallimard. Il revient avec son nouvel album. L'artiste camerounais Blik Bassi jouera son dernier titre dans une version acoustique dans les conditions du direct. Et ce sera l'occasion de vous annoncer une grande nouveauté concernant la librairie francophone. Les fervents utilisateurs des réseaux sociaux le savent déjà, mais l'annonce officielle pour vous tous, eh bien, c'est aujourd'hui. Et ce sera avec un invité surprise, un académicien. On revient avec un nouveau roman et elle revient elle aussi avec un nouveau roman, c'est la fidèle et populaire Véronique Ovaldé qui est en plateau avec nous. Bonjour Véronique.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va pas mal.
Personne n'a peur des gens qui sourient. C'est le titre de ce nouveau livre à suspense, hein. Beaucoup de suspense aujourd'hui, vous verrez. Le sourire, c'est une protection vis-à-vis des autres?
Oui, sans doute une protection. Et une arme de poing aussi.
Ah oui, pour vous, c'en est une?
Bien sûr.
Ouais, vous souriez là?
Bah oui, je souriais tout le temps.
C'est une arme de poing.
Il faut se méfier, Emmanuel.
On se méfie de vous. Véronique Ovaldé est avec nous cette semaine. Le réalisateur et scénariste franco-belge Stéphane Malandrin publie un premier roman captivant et magnifique. Il a imaginé un mangeur de livres et il nous emmène à Lisbonne au 15e siècle. Nous parlerons aussi du masochisme. Oui, vous avez bien entendu, le masochisme. Avec l'histoire vraie incroyable d'un écrivain du 19e qui a donné son nom à cette étrange pratique sexuelle.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme chaque semaine. Depuis la Martinique, pour représenter la France, on retrouve Anne-Rosine Vosa. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Fort-de-France, dans la librairie Le Papillon Bleu. Quel est le temps en ce moment en Martinique? Faites-nous rêver, Anne.
Non, désolé, il fait pas beau.
Il fait pas beau, mais il fait 28 degrés quand même.
Oui, mais 28 degrés, pour nous, c'est... pas mal, c'est bien,
c'est
mais
froid.
C'est la température. Ouais. Voilà, non, c'est correct, c'est la température de la mer qui va pas, en fait, c'est ça. Ça fait chuter la température
22.
De la mer.
Bon,
c'est horrible.
Soyez courageuse, Anne. En Suisse, il fait beaucoup plus froid avec Dominique Bressou qui est de retour. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Tout va bien pour vous?
Tout va très bien, mais effectivement, il fait plus froid.
Ah oui, c'est sûr. En duplex de Bruxelles, où se tient en ce moment la 50e foire du livre de Bruxelles, on rejoint 2 libraires, une belge et une québécoise, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Square à Montréal. Quelle est l'ambiance à Bruxelles? Tout va bien?
Oui, bah on travaille fort et puis on est heureux d'être là.
Bah j'espère. À vos côtés, il y a votre collègue belge que vous allez nous présenter.
Bien
tiens.
Sûr. Eh bien, je vous présente Déborah Damblon de la librairie La Licorne.
Bonjour Déborah.
Bonjour Josiane. Bonjour Emmanuel.
Ça vous change un peu, non?
Ah oui, ça me change, c'est très féminin, c'est pas comme vous, pardon.
Bon, vous interviendrez, je sais pas comment le prendre. Vous interviendrez tous les 4 tout au long de l'émission. Et puis comme chaque mois, un jeune lecteur sera avec nous pour vous conseiller un livre. Une jeune lectrice nommée Farah est sur notre plateau. Bonjour Farah.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bien.
Que penses-tu de cette ambiance, de cette émission-là, pour débuter?
Elle est bien.
Ouais, ça. Bon, tu restes avec nous?
Oui.
Parfait. Bonjour Blik Bassi.
Bonjour.
Le Moabi Cinéma est toujours disponible chez Gallimard. Ouais. Et vous sortez un nouvel album de musique, 1958, chez Tôt ou Tard. Vous en jouerez un extrait tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une anecdote personnelle. Et c'est votre tour, Blik Bassi. Quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter?
Alors, il y a 4 ans, je décide d'aller en tournée avec mes musiciens. Et je recrute un jeune ingénieur de son qui était aussi tour manager. Et donc, on arrive aux frontières de Djibouti et je le vois qui parlemente avec le personnel de santé. Puis je cours, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il avait coché dans l'avion, dans le document de débarquement, toutes les cases qui, en fait, concernaient les symptômes d'Ebola. Et, et donc, moi, j'arrive, je lui dis, tu n'as pas ça, il a fait une erreur. J'explique au personnel de santé qu'il a fait une erreur. Et lui me dit, non, j'ai pas fait d'erreur. Je lui dis, mais si, tu as fait une erreur. Et le personnel de santé était surpris parce que personne n'a jamais coché ces cases-là.
Ouais.
Et lui, en fait, il pensait qu'on allait lui donner une petite aspirine parce qu'il avait mal au ventre.
Ah oui, mais il l'avait vraiment ?
Mais non, en fait, il avait mal au ventre, quoi. Mais il était pas malade. Or, ils étaient prêts à nous mettre tous en quarantaine parce qu'ils avaient cru qu'on était malade. Et heureusement, je suis arrivé en courant pour expliquer qu'en fait, il n'avait rien. Et il était censé être notre tour manager, donc c'est lui qui devait s'occuper de nous en tournée.
Génial. Vous avez changé depuis ?
Après la tournée, oui.
Blic Bassi dans la librairie francophone cette semaine.
Je vais vous raconter une grande histoire belge.
La librairie francophone.
Hey Wim, tu vas où là ? Je vais prendre le train.
Emmanuel Kérad.
Bonjour Stéphane Malandrin.
Bonjour Emmanuel.
Sur ce son de votre film Je suis mort mais j'ai des amis, sorti en 2015, réalisé avec votre frère.
Exactement.
Guillaume, c'était une comédie rock déjantée et belge.
Ouais.
Ce qui va bien ensemble, hein. C'est un bon souvenir.
Ah oui, c'était génial, ouais. Surtout on avait été jusqu'à Schaefferville, les Québécois seuls savent où c'est.
Ouais. Oui, ça allait très loin, hein, ce film-là.
Oui, c'était un beau voyage.
Vous publiez votre premier roman, Le Mangeur de Livres, c'est beaucoup moins drôle. Et encore que, parfois c'est assez drôle, c'est aux éditions du Seuil. On est en 1477, deux enfants naissent en même temps, Adar et Faustino, ils vont grandir ensemble, faire les 400 coups ensemble, jusqu'au jour ils vont aller trop loin et se faire sermonner par le curé, qui les enfermera dans une crypte pendant 7 jours.
Oui. Et puis... quelque chose se passe, ils se défendent, je vais un peu spoiler l'histoire, le curé meurt et laisse dans cette crypte où ils sont enfermés un livre
mystérieux.
Et, voilà, un livre mystérieux qui n'a jamais été lu, et un des enfants, croyant voir de la nourriture, le prend et commence à le manger, sauf que ce livre, oui, donc est ensorcelé et va pousser cet enfant, va lui donner de la force pour sortir de cette crypte où il est enfermé avec son copain, mais va le pousser à chercher d'autres livres pour les manger.
Alors, restons dans la crypte quelques instants, parce que dans cette crypte, il faut survivre, il faut manger, donc il trouve des bestioles, des cloportes qui passent, il lèche les murs qui suintent d'eau, enfin c'est pas très réjouissant tout ça, et puis ils ont cette nourriture atypique, en tout cas lui trouve que en mangeant un livre, finalement, ça compense.
Bah oui, parce que il croit qu'il a une hallucination, on dirait, olfactive ou visuelle. Il voit que ce livre l'attire comme un objet à dévorer, donc il le mange et ce livre, effectivement, le nourrit.
Ouais. Voilà. Bon, on va se mettre dans l'ambiance avec un extrait de votre livre, Stéphane, extrait lu par Véronique Ovaldé. C'est une surprise pour vous. Sur la musique d'Amsterdam de Jacques Brel que vous avez choisi. On vous a demandé la BO du roman.
Cadeau.
On vous a un peu piégé quelque part, mais c'était pour la bonne cause.
On va voir ce que ça donne.
Et on a trouvé une version, Véronique a l'impression, on a trouvé une version d'Amsterdam réinterprétée à la mandoline.
Magnifique.
Écoutez.
Moi, je suis Adar Cardoso, l'enfant des rues qui a nourri son ventre de la seule chose comestible en sa prison, un vieux codex aux pages découpées en lamelles par son frère de lait. Je suis Adar Cardoso. Avec mon frère, j'ai tué un curé et j'ai cru mourir de faim, enfermé dans une crypte. Je suis innocent des crimes qui ont eu lieu. Je ne les ai pas voulus, je ne les ai pas souhaités, je ne les ai pas entrepris, je ne savais pas, je ne savais rien de ce livre. Je ne l'ai pas mangé par décision métaphysique. Je ne l'ai pas mangé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai mangé parce qu'il était là et que j'avais faim. Je ne suis ni prophète, ni insecte.
Magnifique lecture de Véronique Ovaldé qui lit Stéphane Malandrin sur cette musique à la mandoline, c'est magnifique.
Et qui ne s'était pas préparé, donc bravo.
Oui, vous avez suivi les coulisses de l'émission, ouais. Elle l'a su au dernier moment.
C'est génial de dire comme ça, au dépoté, bravo.
Pourquoi cette chanson Amsterdam qui colle à votre livre?
Parce
on est au 15e siècle, ça n'a rien à voir.
Mais il jouait déjà, en fait, le thème date du 15e siècle, on ne sait pas, non, je rigole, je dis n'importe quoi. J'aime la puissance de la chanson de Brel quand il la chante, et avec sa truculence et sa sueur et ses grands gestes, et le port et les marins, ouais, et les gens qui partent en bateau et tout ça. Et dans mon livre qui se passe aussi à Lisbonne, je trouvais qu'il y avait, comme il est belge aussi, que je viens de là,
ouais, d'accord,
je trouvais qu'il y avait une parenté, voilà, j'avais envie de son énergie.
Alors toute l'histoire qu'on vient d'entendre est dans cet extrait, et Hadar va poursuivre sa fringale en mangeant tous les livres précieux de Lisbonne, au point que dans la ville, c'est la panique. Lisboète cherche les coupables.
Oui. Bah oui, parce que il se faufile comme il est petit la nuit dans les églises de Lisbonne, et avec son copain Faustino, qui lui cherche plutôt les rubis qui sont enchâssés dans les bouquins de l'époque. Ils détruisent tout, ils vandalisent les églises, les livres, et le matin au réveil, c'est des surprises un peu effrayante pour les Lisboètes qui se mettent chasse de ces mangeurs de ces mangeurs.
Ils mangent une collection légendaire, la plus estimable, oui, du Portugal. Oui. Les récits d'Henri le Navigateur, qui a vraiment existé, lui. Le prince Henri le Navigateur, qui n'a jamais navigué d'ailleurs, mais qui a financé des expéditions et qui a lancé l'expansion coloniale européenne.
Exactement. La bibliothèque dans laquelle les enfants sont enfermés n'a pas existé, oui, puisque c'est une bibliothèque imaginaire que j'ai inventée, dans laquelle Henri le Navigateur aurait ramassé tous les plus beaux codex de l'époque, et cet enfant va les dévorer.
En fait. Voilà. Trois libraires ont lu votre roman, Stéphane. Le Canada, la Suisse et la Belgique. On va commencer avec le Canada, ça vous va ?
Parfait.
Allons-y, Josiane Letourneau.
Eh bien, c'est vraiment une histoire étonnante que celle de ce mangeur de livres. Cette abondance, parce que c'est un conte qui déborde de partout, mais qui a quand même aussi des racines profondes. Je pense à Rabelais, je pense à la fin du Moyen-Âge, et qui nous ramène à cette fin des livres, qui est l'écho d'une fin physique des pauvres, mais aussi l'écho de cette fin qui existe pour plusieurs d'entre nous, en fait.
À côté de vous, depuis la Foire du Livre de Bruxelles, il y a Déborah Damblon qui a lu aussi ce roman. Déborah, vous avez aimé cet ouvrage?
Bon, Emmanuel, je pense déjà vous avoir dit que j'étais pas passionnée par les romans historiques.
Oui, hein, c'est vrai.
Mais c'est vrai, hein. Mais franchement, dès comme celui-ci, je veux bien en lire pour chaque émission, parce que, monsieur Malandrin, tout m'a plu, tout, dans votre roman. Et puis, j'ai vécu quelque chose de formidable à la lecture. C'est quelque chose que j'aime par-dessus tout, c'est cette sensation de me sentir toute petite et puis entraînée par le torrent d'une histoire qui me dépasse et que je peux pas arrêter avant de l'avoir terminée. Vraiment, j'adore.
Dominique Bressoux, pour la Suisse, êtes-vous d'accord ?
Ah oui, complètement. Pour moi, c'était un vrai bonheur. La progression du style, de l'histoire qui nous font passer des amuse-gueules à la grande bouffe, c'est remarquable. Et surtout, c'est juste un immense plaisir de croquer cette fable sans morale. Et en plus, moi, j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai beaucoup ri. Et en plus, je vais continuer à en rire, particulièrement chaque fois qu'un client me demandera ce qu'il peut bien faire de tous ces livres qui encombrent son salon.
Très bien.
Vous avez déjà magnifique mangé un livre, Stéphane ?
Bah oui, beaucoup. Enfin, comme vous tous, je pense. Ouais, on en a beaucoup, beaucoup mangé, oui.
Le mangeur de livres va devenir un ogre, un géant qu'il va falloir exécuter. On ne vous dira pas comment cela va se terminer, mais une fois le livre refermé, on se dit que la littérature est à la fois vitale et dangereuse. Quel est le risque à trop se nourrir des livres, Stéphane Malandrin ?
Je pense qu'on peut juste regarder autour de nous ce qu'on est devenu en tant qu'espèce, voilà, pour nous rassurer sur ce que les livres nous ont appris.
C'est-à-dire, je comprends pas.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup lu depuis un certain temps qu'il n'y aura plus d'insectes dans 100 ans, que la glace fond, que tout part en live, un peu dans notre époque. Donc parfois, je me dis, là, les livres qu'on lit, hélas, ne nous rapprochent pas forcément de la sagesse, mais même s'ils nous constituent et ils nous font du bien. Voilà. C'est le paradoxe. Je ne suis pas spécialement réjoui de tout ce qu'on fait en tant qu'espèce humaine.
Ouais.
Enfin, je pense qu'on a...
Vous en êtes où, Stéphane, là, dans la vie, en fait ?
Non, moi, je suis très content. En plus, je vais avoir un petit bébé
qui va arriver.
Mais au
il n'ira pas de livre.
J'aimerais
alors
bien qu'on prenne un peu plus soin de nous-mêmes.
Oui, mais ce n'est pas la question, Stéphane.
Oui. Bah,
quel est le danger à trop lire ? Il y a un danger à trop lire, vraiment ?
Ah non, non.
Si, parce que votre conclusion, c'est de dire on lit trop, on lit beaucoup de livres et ça nous a amené là, c'est ça ?
Ah non, non, il n'y a pas de message dans mon livre. Il n'y a pas de message.
Dans le livre ?
Non, oui, dans mon livre.
D'accord.
Hitchcock disait cette phrase très jolie, il disait « Si vous avez un message, allez à la poste, ça ira plus vite. » Donc voilà, j'ai voulu raconter une histoire, j'aurais voulu raconter l'amour des livres. On adore les livres. Maintenant, est-ce que les livres nous sauvent ? Est-ce que les livres nous perdent ? On peut en faire une émission, si vous voulez.
Ça peut, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça peut nous écarter de la société, les livres, ou pas ? Comme dans votre roman ?
Bah oui, ça nous écarte de la société, puisque c'est un moment où on... où on se met en retrait, on s'isole, pour peut-être pour mieux comprendre cette société dans laquelle on est.
Mmh.
Je n'ai pas les idées spécialement claires par rapport à une position sur les bouquins.
Je vois, oui. Véronique Ovalde n'a pas l'air d'accord du tout.
Si, ça m'intéresse, mais je me dis, moi, que, en fait, c'est un double mouvement, c'est intéressant dans la lecture. D'ailleurs, je pense que c'est le seul, vraiment le seul média qui fait que il y a un double mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois dans un retour sur soi, on se comprend mieux, on comprend beaucoup plus de choses à l'intérieur, et en même temps, on est dans un rapport très très fort à l'altérité.
C'est vrai.
Donc, il me semble qu'il y a cette ambivalence, en fait, dans les livres.
On va rester sur le mot ambivalence. Merci Véronique, merci Stéphane Malandrin.
Merci.
Le Mangeur de livres est paru aux éditions du Seuil. À suivre, une jeune lectrice de 15 ans qui vous conseillera une BD, La Grande Véronique Ovalde, donc, pour son tout nouveau roman, et une annonce concernant la librairie francophone avec un invité surprise, une grande nouveauté qui va agiter le paysage audiovisuel francophone. Et voici une nouveauté musicale signée Hervé, un jeune artiste français créatif. Je vous laisse écouter et juger. Va piano, c'est le titre. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Y a pas de courage sans peur. Je serre les dents, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je fais piano. Le passé vient frapper comme une gauche, je serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano.
C'était Hervé avec Va Piano sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Tous les mois, nous donnons la parole à un jeune lecteur ou une jeune lectrice pour un conseil de lecture. Aujourd'hui, c'est Farah qui est avec nous. Bonjour Farah.
Bonjour.
Rebonjour, parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Tu as 15 ans et tu es en classe de 3e en France, en région parisienne. Et tu as choisi une bande dessinée.
Oui, Les Crocodiles de Thomas Mathieu.
De quoi ça parle ?
Du harcèlement et du sexisme.
Ouais. Qu'est-ce que tu en as retenu alors ?
Ce que j'en ai retenu ?
Oui.
Bah, c'est que des fois, par exemple, il y a des femmes à se faire harceler alors qu'elles ne le savent même pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça soit des vrais témoignages. c'est des vraies femmes qui ont parlé.
Et c'est des jeunes filles aussi qui sont à l'école.
Oui.
Ouais.
Et comme on n'en parle pas souvent aussi, mais bah voilà.
Et tu as vu des situations comme ça à l'école, toi?
Oui, mais je pensais pas que c'était de l'harcèlement.
Tu pensais que c'était quoi?
Bah, par exemple, il y a des filles, elles sont harcelées et tout, mais nous, on va penser que les autres, ils jouent avec elles. Mm-hmm. Alors que non.
Et alors, du coup, cette bande dessinée, ça t'a alerté, finalement?
Oui.
Pourquoi tu la conseilles aux auditeurs?
Mais en fait, parce qu'ils parlent comme nous, en fait.
Ah oui.
Je sais pas comment vous dire.
Ouais, c'est le langage comme à l'école.
Voilà.
Bon, ça s'appelle Les Crocodiles et c'est mis en dessin par Thomas Mathieu. C'est aux éditions du Lombard, une bande dessinée essentielle qui touche, vous l'avez entendu, les adolescents. Merci beaucoup, Farah. Ouais. Merci. Si comme Farah, vous voulez venir dans la librairie francophone pour conseiller un livre et que vous avez entre 12 et 17 ans, contactez-nous via Facebook ou Instagram, Emmanuel Kérad. Véronique Ovalde est dans la librairie francophone pour son nouveau roman « Personne n'a peur des gens qui sourient » avec un personnage nommé Gloria et ce titre de Van Morrison qui est cité.
Oui, absolument, que son papa l'appelle Gloria alors qu'elle était censée s'appeler Antoinette comme son affreuse grand-mère. Mais au dernier moment, il se rebelle, une fois n'est pas coutume, et il l'appelle Gloria à cause de cette merveilleuse chanson de Van Morrison.
Alors c'est un roman à suspense, Véronique, qui frôle le polar. Un jour, Gloria quitte son appartement en emmenant ses deux filles avec elle. Elle quitte le sud de la France pour le nord. Qu'est-ce qu'elle fuit?
Ben alors on ne sait pas très bien ce qu'elle fuit au départ. Hein. C'est qu'elle se sent menacée. Elle est menacée. Elle part avec tout un tas de choses, du doliprane, des habits chauds et un Beretta. C'est toujours utile.
Oui.
Elle va chercher ses
une
deux
arme.
Filles. Mmh. Ouais, son adolescente de fille qui est pas du tout partante, hein. Comme souvent les adolescents d'ailleurs, qui en général traînent des pieds comme des forçats quand vous voulez les emmener quelque part. Et surtout quand vous voulez les emmener très loin de là où ils habitent, dans une forêt ombreuse et profonde. Et puis elle emmène aussi sa toute petite fille, qui elle est beaucoup plus partante pour l'aventure.
Alors on ne sait rien, c'est vrai, on essaye de deviner, mais ce n'est pas si évident car vous alternez comme ça le récit actuel avec l'histoire de la jeunesse de Gloria. C'est une jeune fille qui a eu une vie plutôt difficile, orpheline très jeune, et elle a dû se construire toute seule.
Oui c'est ça, elle a plus éprouvé la dureté du monde que sa solidarité ou sa douceur. Donc elle s'est construite, voilà, comme elle s'est caparaçonnée, on va dire. Mmh. Elle a quelque chose de plus qu'une guerrière, c'est plutôt quelqu'un, c'est une résistante. Voilà,
ouais, c'est
quelqu'un
ça.
Qui résiste, en fait, Gloria.
Et elle va rencontrer un beau Samuel.
Bah oui, un beau garçon dont elle va tomber folle dingue amoureuse.
Dans le bar de son oncle d'adoption, au bord de la Méditerranée, où on ne mange pas des bars, mais des loups, cela dit en passant, car il y a cette erreur dans votre roman. Et cette vie au bord de la mer est assez insulaire, Véronique Ovalde. Le monde est petit, on s'y ennuie, selon votre personnage.
Oui, on s'y ennuie parce que c'est une ville de périphérie. Vous voyez, alors je la vois tout à fait à côté de Nice, cette ville qui est Valnargue.
Oui,
et
que vous avez inventée. Oui.
Oui, j'ai inventé la ville, mais ça ressemble très très fort à des villes qui pourraient être dans les lisières, aux lisières d'une ville comme Nice.
Villefranche, par exemple.
Oui, Villefranche, par exemple, exactement. Et donc elle s'ennuie, évidemment, mais on s'ennuie très souvent là où on est né quand on a 17 ans. On a envie d'aller. Oui, on a envie de tracer la route.
Vous êtes ennuyée, vous? Vous venez d'où d'ailleurs, Véronique?
Moi, je ne leur viens pas du tout du même coin. Je viens de banlieue parisienne, de la Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que j'avais très très envie de quitter cet endroit.
Elle va se poser plein de questions, Gloria, sur l'utilité de cette fuite. Ce n'est peut-être pas pour protéger ses enfants qu'elle fuit.
Alors, on peut se demander ça, en effet, dès le départ. Mais elle a l'impression qu'en fait, elle veut sauver sa peau, bien sûr, mais sauver aussi la peau de sa peau, finalement. Ouais. Elle veut sauver ses enfants. Donc, elle est convaincue, quand même, tant qu'il faut faire quelque chose, là, pour sauver ses gamines et les extraire du danger. Elle a aussi, ce côté, les mères sentinelles. Hein. Ça m'évoque souvent ça. Vous savez, les mères qui veulent absolument protéger leurs enfants contre la terrible brutalité du monde, la sanglante brutalité du monde. C'est une tentation qu'on a tous. Particulièrement, on a des gens qu'on aime et particulièrement des enfants, on a cette tentation-là et ça peut être assez dangereux parce que je crois qu'on peut aussi vite déraper.
Ça parle un peu de vous ou pas?
Mais pas du tout, qu'est-ce que vous imaginez? Mais oui, mais vous savez bien comment c'est.
Mais oui,
c'est nous,
c'est
puissance,
oui.
Puissance X.
Et puis la voilà. Façon dont vous en parlez.
Non, mais oui, Gloria, elle a un côté. L'autre, je lisais un petit texte l'autre fois, c'était André Breton qui disait de Frida Kahlo, de l'œuvre de Frida Kahlo, ouais. C'était comme une bombe entourée d'un ruban. Et moi, Gloria, elle m'évoque ça. Donc parfois aussi, je suis une bombe entourée d'un
ouais.
ruban.
Ah ouais. Bon, le sourire dévastateur, on va y revenir. Juste après, trois libraires qui ont lu votre nouveau roman, Véronique Ovaldé. Roman dont on ne peut pas dire grand-chose, hein, parce que sinon on dévoile tout. La Belgique, la Martinique et la Suisse, on commence par qui?
La Belgique, on commence. Voilà, Belgique.
La Belgique, allons-y.
Vous avez dit.
Déborah Damblon, c'est à vous.
Eh bien, moi, je me suis immédiatement attachée à votre magnifique personnage de mère sentinelle, comme vous dites, de mère debout, parce que quelle femme formidable, elle est puissante, elle est inspirante. Et puis, votre livre, ben, je l'ai dévoré. Et j'étais vraiment le cœur au bord de lèvres, presque sans reprendre mon souffle, tellement je redoutais ce qui allait pouvoir lui arriver à Gloria et aux siens. Et vous avez réussi, je trouve, l'équilibre parfait entre la force du contenu et la tension narrative est vraiment jusqu'aux dernières pages.
Mmh. La Martinique, Anne-Rosine Vosa.
Alors moi, je suis une grande admiratrice de Véronique Ovaldé et j'ai complètement été conquise par son dernier roman. Je trouve qu'elle y analyse avec beaucoup de finesse le rapport mère-fille. Et c'est d'une justesse et d'une finesse incroyable. Je trouve que l'écriture de Véronique Ovaldé est juste merveilleuse. Les descriptions sont hyper réalistes, ses parenthèses sont pleines d'humour. Et du coup, elle fait une espèce de complicité avec le lecteur. Et moi, j'étais conquise, je suis fan, j'ai adoré.
C'est vrai que vous interpellez le lecteur avec plein de digressions comme ça.
Oui.
Vous osez sûr. Des choses.
Oui, mais parce que sinon, ça serait presque trop artificiel. M'adresser au lecteur, ça me semble quand même le minimum.
Il y a beaucoup de digressions.
Il y a beaucoup de digressions. Mais j'aime bien les digressions.
Ouais, c'est vrai. Comme
les
Philippe.
Pas de côté.
Comme Philippe Génada.
Oui, c'est l'un de nos traits communs.
Eh ouais. Dominique Bressoux en Suisse.
Ah oui, moi, dès la première phrase, j'ai été prise dans l'urgence. Moi, je sentais le cœur de la protagoniste qui battait. Et d'instinct, je me suis rangée à ses côtés pour protéger ses filles. Mais en fait, j'ai été complètement bluffée par la fin du livre. Et c'est pas faute de lire des thrillers psychologiques. Mais finalement, ce livre, c'est l'illustration parfaite d'une grande vérité. Personne n'est vraiment ce qu'il tient à donner comme image aux autres, avec le sourire ou sans le sourire.
Le sourire. Tiens, parlons-en, Véronique Ovaldé. Avec le sourire, donc, qui donne le titre de votre roman, Personne n'a peur des gens qui sourient, c'est Stella, la fille aînée de Gloria, qui constate que quand on ne sourit pas, ça met tout le monde mal à l'aise.
Bah ouais, vous n'avez pas remarqué, c'est assez génial comme expérience. Vous rentrez quelque part, vous rentrez dans un commerce, n'importe où, et vous ne souriez pas. Et en fait, c'est très déboussolant, très déstabilisant. Et l'inverse, c'est vrai, c'est qu'en fait, si vous vous mettez à légèrement sourire dans la rue, mais faites l'expérience, c'est génial. Et faites les gens vous regardent, tout à coup, si vous étiez une espèce de petit soleil, comme ça, si vous souriez de façon inquiétante, tout le monde va se barrer en courant. Mais sinon, en fait, c'est plutôt agréable et les gens vous se mettent à vous sourire aussi. Le sourire, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est comme une arme de poing parce que ça a quelque chose de. Ça désarme, ça neutralise en fait
ça la neutralise,
personne. Ça neutralise la personne devant vous. C'est très très pratique.
Et dans ce roman sur la fuite, il y a cette notion d'invisibilité.
Oui.
Donc quand on sourit, on est plus invisible justement que quand on ne sourit pas. Comment échapper aux autres? C'est la question que vous posez aussi. Comment s'extraire du monde et devenir invisible? C'est impossible ça?
Je pense que c'est impossible, mais on a aussi, tout à l'heure on parlait de la tentation de vouloir toujours protéger les siens, mais la tentation aussi parfois de refaire complètement sa vie, de recommencer à zéro, de s'isoler en se disant mais comme ça on va être totalement protégé en fait. Et vous savez, c'est Gloria, elle est comme plein de gens autour de nous, elle est toujours prête à subir un siège. Donc elle est toujours, tout est toujours extrêmement bien contrôlé. Le fait d'aller dans une maison au milieu d'une forêt, évidemment, ça c'est un fantasme aussi très enfantin, le fantasme du conte.
Oui, c'est ça. Et on croit que personne va venir nous chercher, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous chercher.
Mais évidemment.
Vous avez déjà essayé de disparaître, Véronique?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Et alors?
Bon, en fait, ça marche pas mal. Je crois que les gens me cherchent pas, moi.
Oh, si. Vous avez tenu combien de jours?
Une semaine.
Ah, quand même?
Ouais.
Ah ouais. Personne vous a cherché?
Non.
Vous avez inquiété tout le monde.
Non, c'est l'avantage d'être écrivain. C'est qu'en fait, les gens considèrent que vous êtes un peu branque. Donc, du coup, ils se disent, bon, voilà, elle peut... Non, mais elle doit être en train d'écrire quelque part. Donc, vous rendez compte, personne ne vous cherche.
Mauvaise expérience, donc. Hein.
Non, c'est pas mal. Ça remet les pendules à l'heure.
Bon, merci beaucoup, Véronique Ovaldé.
Merci beaucoup.
Votre roman Personne n'a peur des gens qui sourient est paru chez Flammarion. Vous allez rester avec nous. Blic Bassi va s'installer pour jouer son titre dans quelques instants. Et juste avant, on va vous annoncer donc une grande nouvelle qui va vous réjouir, je l'espère. La librairie francophone devient une émission de télévision à partir du mois de mars. Chaque mois, vous découvrirez sur les antennes des chaînes publiques francophones un programme inédit avec des invités et tous les styles de livres. Récits de voyage, littérature, livres jeunesse, BD, rencontres avec des artistes et j'en passe. Nous allons vous faire voyager. Je vous annonce donc aujourd'hui la naissance d'un nouveau programme, une déclinaison de cette émission à la télé. Et le parrain, parce qu'il y a un parrain, le parrain de la librairie francophone télé est avec nous en ligne. Bonjour Daniel Laferrière.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous, Dani?
Me voici bien en forme et je me cachais, je me tirais quelque part, mais on m'a retrouvé, Véronique.
on peut pas vous perdre, Dani.
Vous êtes l'écrivain membre de l'Académie française que l'on connaît bien en France, au Canada, en Haïti et partout ailleurs. Vous avez accepté d'être le parrain de cette version télé. Quelles sont vos attentes, Dani?
Mais tout. Je m'attends à ce qu'on me fasse rêver, je m'attends à ce qu'après avoir entendu l'émission, je cours en librairie au milieu de la nuit, même si c'est possible, pour aller chercher un livre. Et je m'attends à être émerveillé, je m'attends à ce que le même succès qu'on a eu, et la librairie francophone et radio devienne, et la librairie francophone télé, je m'attends à tout.
Ben écoutez, on s'attend à ça, ce serait pas mal. Un petit conseil de parrain pour lancer l'émission?
Un petit conseil du parrain?
Oui, un petit conseil.
Je vais dire, et la chance qu'on a, c'est que on va vous retrouver où que vous vous cachiez, même dans une forêt, et on va vous émerveiller. Le conseil, c'est que tenez-vous sobre, écoutez tout ce que l'on vous dit, et courez prendre le livre à la librairie le plus proche.
Parfait. Merci beaucoup, Dani Laferrière. C'est un grand honneur de vous avoir comme parrain. Véronique Ovaldé vous salue, d'ailleurs.
Oh bah oui, bien sûr. J'embrasse Dani.
Voilà, c'est mieux.
On vous retrouvera donc dans la première librairie francophone télé en Belgique sur RTBF La 3, samedi 2 mars à 23h, au Canada sur Ici RTV, lundi 4 mars à 21h30, en Suisse sur RTS2 le 4 mars à 22h45 et partout ailleurs dans le monde sur TV5 Monde, dimanche 10 mars à 19h. Vous serez plus de 10 millions à nous regarder. Une émission à suivre aussi sur les plateformes web de vos radios francophones. Merci, parrain Laferrière.
Merci.
À bientôt.
Que vous vous cachiez, on vous retrouvera.
Vous lui avez donné des idées, Véronique.
Oui, je vois.
Vous pouvez aller sur Instagram, Emmanuel Queyrade, sur mon compte, pour voir les photos des derniers tests décors et plateaux en guise d'avant-goût. Blic Bassi est installé pour interpréter un extrait de son nouvel album dans une version acoustique inédite. Tous les mois, nous filmerons un titre joué dans notre studio pour le diffuser donc dans la version télé de l'émission. Les caméras sont en place, Blic Bassi également. Voici Wonnie jouer à la guitare électrique jaune, c'est ça, elle est jaune, Blic, ouais.
Oui, elle est jaune.
Elle est jaune. Le voici donc avec cette guitare jaune dans la librairie francophone, Blic Bassi.
Solo em a vinega le kere wongi Lo em a vinega le munu wongi Ken yes ni peo Pasor ni li peo Lo em a vinega le kere wongi Onge babi wel ni munu wongi Lo yes in ho Niño, niño, niño Lo yes, hijo Niño, ni mao Lo yes, me nengue li kere wongi Mapirere chomo kikibe tumbumo Sogolo em ave nengue li kere wongi Lo yes, mi wel ni munu wongi Ata long emple lo Engani yo ki wo Mumye abi wel ni beski wongi Beba naren kirne ne kere wongi ho. Lo ye si ho. Inyo yon inyo. Lo ye si ho. Diri ho la veo. Ha 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 ta. Lo ye si ho. Inyo ni nyo ni nyo. No yes you are, oh, did it all of you.
Blic Bassi dans le studio de la librairie francophone avec Wonny dans une version acoustique. Venez vous réinstaller avec nous, Blic Bassi. Une séquence qui vient d'être filmée par l'équipe vidéo de France Inter et vous pourrez voir ce titre en image dans la première édition de la librairie francophone télé dont nous parlions tout à l'heure sur RTS 2, RTBF la 3, ici RTV et sur TV5 Monde. Blic Bassi, merci beaucoup.
Ben, merci.
Très joli titre.
Merci.
De quoi parle-t-il? Quel est le message?
En fait, dans Wongi, je parle de la peur. Wongi, en langue bassa du Cameroun, veut dire la peur. Et en fait, à travers ce titre qui fait partie de l'album 1958 dédié à Omiobe, qui est un combattant de la liberté pour le Cameroun, je parle tout simplement du fait que mon peuple a peur de se lever pour ses droits. Et donc, parce qu'il a peur, il se réfugie dans l'alcool. Et les jeunes boivent sans arrêt et ils ont l'impression que cela règle peut-être leur problème.
Alors 1958, c'est le titre de cet album qui sortira le 8 mars et c'est un hommage aux héros de l'indépendance camerounaise.
Oui, absolument.
À tous les héros.
Oui, absolument, à Oumiobé particulièrement et à ses compères.
Qui a été tué d'ailleurs le 13 septembre 58 par des militaires français.
Absolument, oui. C'est quelqu'un qui, en fait, je me suis retrouvé à parler de lui dans cet album parce qu'il me lie de différentes façons. La première, c'est que ma mère a vécu pendant un an et demi dans la forêt avec mon grand-père, dormant d'un lieu à un autre, parce qu'on tuait tous les bassas qui étaient censés pouvoir savoir où se cachait Oumiobé et ses compères qui vivaient pendant cette période dans la forêt. Quoi.
Donc c'est un hommage là, une revanche aussi pour vous, absolument. Parce que vous chantez en langue bassa, c'est une langue qui est parlée quand même par 2 millions de personnes.
Oui, c'est un hommage non seulement à Oumiobé pour la liberté, mais surtout le fait que c'est quelqu'un qui se battait très très vite, qui parlait du tribalisme par exemple, qui aujourd'hui est en train de gangréner le Cameroun, mais également c'est quelqu'un qui se battait non seulement pour l'indépendance, mais pour l'égalité des droits pour chaque humain. Quoi.
Merci beaucoup Blic Bassi. Votre nouvel album, le quatrième album, 1958, sortira le 8 mars chez No Format Tôt ou Tard, en CD et en version numérique. Et vous êtes en tournée en ce moment, vous serez le 28 février à Zurich en Suisse, le 5 avril au Cully Jazz en Suisse, le 15 avril à Paris à La Cigale entre autres. Merci beaucoup Blic Bassi d'être revenu dans cette émission. Un deuxième roman bientôt ou pas?
Oui, je suis travail, oui, bon. Absolument.
Bah, vous reviendrez.
Avec plaisir.
Parfait, merci beaucoup.
Merci.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Catherine Sova.
Bonjour.
Buvez votre verre d'eau, il n'y a pas de souci.
Au même moment.
Bonjour Anne Simon.
Bonjour.
Vous publiez L'Homme à la fourrure chez Dargo, une bande dessinée sur celui qui a donné son nom au masochisme. Nous allons donc parler du masochisme pendant 10 minutes avec vous. On prévient les parents qui ont des enfants autour d'eux, mais on va être sage autant que possible. Tout commence en 1872 en Autriche, à Graz. un homme présente son œuvre au public. Cette œuvre s'appelle « La Vénus à la fourrure » et c'est l'histoire d'un homme dominé par une femme.
Oui, c'est le début de la BD, effectivement. C'est l'histoire d'un écrivain très célèbre à l'époque qui s'est illustré par un certain nombre de romans dans lesquels on n'a pas nécessairement lu que c'était quelqu'un qui avait une quelconque perversion à ce moment-là, mais simplement il y racontait des histoires. Celle-ci, elle appartient à un cycle romanesque beaucoup plus important où il fait plutôt figure de moraliste et de philosophe, c'est-à-dire qu'il s'exprime en gros à chaque fois dans tous ses romans, il raconte toujours des histoires d'amour dur, ouais, difficile, ouais. Où les choses se passent pas bien entre les hommes et les femmes.
Mais tout le monde se pose des questions, parce que quand il raconte cette histoire, on se dit, est-ce que cette femme, est-ce que cet homme dominé existe vraiment ? Et Léopold von Sacher-Masoch, c'est son nom, est-il le héros, Anne ?
Donc en fait, on va dire que c'est inspiré de sa vie, ça sort pas de nulle part. On sait pas trop en fait, vu que il y a une histoire après avec une Vanda, on va peut-être en parler après,
oui,
qui se retrouve dans le roman, oui. Et il y a une vraie personne qui se fait appeler Vanda et qui a été vraiment la maîtresse, oui, et la femme de l'écrivain.
Alors Vanda, donc, elle arrive un jour, elle vient le voir après cette présentation de l'œuvre, elle lui propose un contrat. Et dans ce contrat, il est stipulé notamment qu'il doit être un esclave à ses pieds. Alors il accepte toutes les conditions du contrat. La seule condition pour lui, c'est de ne pas être déshonoré en public, car il a l'intention de mener une grande carrière d'écrivain. Et c'est ce qu'il va faire, Catherine.
Ah oui, vraiment, il réussit tout à fait, puisqu'il dirige des revues, il écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont remarqués. Il est à ce moment-là, dans cette période, considéré comme quelqu'un qui réussit.
Ouais. Donc, et ils vont se marier, les deux.
Alors ils vont se marier.
Ils vont avoir des enfants même.
Exactement, plusieurs. Il y a plusieurs enfants, des garçons. Et ils vont mener une vie de l'extérieur assez flamboyante, parce qu'on les remarque tous les deux. À l'intérieur, c'est encore tout aussi flamboyant.
Ah, c'est que ça fonctionne. C'est un couple qui fonctionne sur exactement. Le rythme masochiste.
Ça fonctionne justement parce qu'elle lui propose, c'est-à-dire ce fameux contrat. C'est un agrément entre tous les deux, entre deux parties qui sont d'accord pour vivre une situation choisie, en tous les cas pas subie.
Elle le fouette régulièrement, elle le met à genoux devant elle, écrase son visage avec ses talons, le trompe avec d'autres hommes pour le faire souffrir.
Oui, mais avec son accord.
Voilà. Ça laisse Véronique Ovalde rêveuse. Et quand elle est trop fatiguée pour jouer la dominatrice, elle appelle la bonne.
Oui, c'est facile. Hein. C'est beaucoup plus commode. C'est non seulement elle est fatiguée, mais on va dire aussi qu'elle se lasse un petit peu.
Oui, elle se lasse.
Elle se lasse gentiment de l'exercice qui aurait pour grand défaut d'être un peu répétitif.
C'est terrifiant comme histoire.
Oui, certainement, parce que le fantasme, à partir du moment donné où on l'assouvit, qu'est-ce qui reste ? Ouais. C'est la question.
Et tout va basculer, on va comprendre dans un instant, juste après les libraires. Il y en a deux qui ont lu cette bande dessinée, on commence avec la Martinique. Anne-Rosine Vosa, avez-vous apprécié cette histoire masochiste ?
Oui, j'ai vraiment apprécié cette histoire. J'ai aussi apprécié les illustrations que j'ai trouvées très belles et très douces et sobres. Et au détour de la lecture, il a été aussi intéressant de constater à l'époque que l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale,
oui.
Et que plus d'un siècle plus tard, les préjugés sont encore bien présents. Donc c'est une BD qui va aussi à l'encontre de ce préjugé-là, je trouve. Donc je la conseillerais volontiers à des ados.
Pourtant c'est c'est un peu osé, mais c'est vrai que ça aborde plein de sujets.
Ouais. Oui, ouais. C'est sobre.
Josiane Letourneau au Canada, êtes-vous d'accord ?
Ben oui, parce que même si pour ma part je connaissais déjà l'auteur à l'origine du mot, j'ai trouvé que cette BD-là était extrêmement intéressante et nécessaire, j'oserais dire, pour qu'un plus grand public connaisse l'œuvre de Sacher-Masoch. Mais je ne risquerai pas la prononciation allemande. Et drôlement, je trouve génial que ce soit deux femmes qui mettent en lumière l'histoire intime de ce personnage à travers sa vie d'homme, de père et d'auteur. Merci de faire un peu abstraction aux tendances éditoriales actuelles.
Là, c'est sûr qu'on sort un peu des chemins balisés, on va dire, avec Catherine Sova et avec Anne Simon. Léopold von Sacher-Masoch, c'est comme ça qu'on prononce exactement. En allemand, va commencer à se faire connaître. Vanda va le quitter pour un homme avec qui il partageait des parties intimes. Hein, donc comme quoi, il faut pas faire entrer un autre homme à un moment, ça peut être dangereux. Et l'un de leurs fils va mourir du typhus à l'âge de 10 ans. C'est dramatique et tout va basculer parce qu'un jour, la Vénus à la fourrure, ce fameux texte, va intéresser de près un médecin qui a écrit un livre sur les psychopathies sexuelles. Et c'est un libraire qui va lui montrer.
Exactement. Et ce psychiatre a véritablement existé. Il s'appelle donc Krafft Ebing. Et il a eu cette idée assez incroyable à l'époque. On est un petit peu avant Freud, d'essayer de faire une sorte de répertoire énorme qui comporterait toutes les perversions sexuelles. Alors, dedans, il y a des choses assez soft, on va dire, comme.
Les fétichistes.
Les fétichistes, les voleurs de mouchoirs, voilà, ce genre de choses. Et puis des trucs beaucoup plus sérieuses. Bon, pour l'époque, on n'est pas encore dans un ouvrage formidablement scientifique qui donnerait des analyses. Mais en tous les cas, dans la description de cas. Et voilà, ça c'est la surprise, la très mauvaise surprise de Zahra Mazor de trouver un jour que son nom, non seulement y figure, mais donne lieu à une perversion.
Et à une définition. Voilà. Parce que ce médecin écrit, ces perversions de la vie sexuelle peuvent s'appeler masochisme, car le célèbre romancier Zahra Mazor a fait de ses pratiques le thème favori de ses écrits.
Oui, exactement, exactement. Mais ce qui est terrible, c'est que, par exemple, quand Krafft Ebing crée ce grand dictionnaire, il crée le sadisme, il crée un certain nombre de termes. Sade, le marquis de Sade est mort, évidemment, tandis que Zahra Mazor est encore en vie. Et même si c'est quelqu'un qui aime souffrir, on peut dire qu'a priori, il préférerait choisir sa souffrance, et c'est pas celle qu'il préfère.
Ouais. Anne Simon, vous, dans la BD, vous différenciez le sadisme et le masochisme.
Oui, mais parce qu'on les met très souvent, on met les deux termes, on les associe. Et effectivement, donc la différence, comme disait Catherine, c'est que Sacha Mazoch, c'est pareil, je sais jamais comment on prononce.
C'est pas grave.
Le masochisme, c'est qu'on aime, en gros, on aime être fouetté. Et le sadisme, c'est qu'on aime faire mal, en fait.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'on retient sadomaso.
Et parce que quand on est masochiste, on est soumis au sadique.
Oui, alors oui, est-ce qu'on est obligatoirement sadique quand on a un masochiste devant soi? Est-ce que je sais pas justement parce que
Vanda, Catherine Sauva.
Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ouais. Je crois que le gros défaut du psychiatre en question, c'est d'avoir créé deux sortes de frères, c'est-à-dire un couple maudit qui serait le sadique et le masochiste de l'autre, alors qu'en fait, ils ne sont pas complémentaires. Voilà, un masochiste va pas vouloir être fouetté par un sadique. C'est pas comme ça que ça marche.
Pas forcément.
Et on peut être les deux à la fois.
Et on peut être les deux à la fois. Ouais. Mais c'est ce qu'on peut voir dans les rapports de force tous les jours. Enfin, quand on sort de la catégorie psychiatrique, on peut se dire qu'on a tous un petit côté maso, un petit côté où on aime faire souffrir. Enfin, il y a toujours un rapport de force dans la vie, avec les gens, dans les relations amoureuses. Enfin, j'apprends rien à personne. Mais voilà, enfin, je crois que c'est réel, en tous les cas.
En tout cas, Léopold réalise avec effroi qu'il est devenu, à son insu, le créateur du masochisme. Et dans les salons, ça fait jaser. Et dans les salons, ça le discrédite totalement.
Oui,
c'est fini pour lui, à partir de là.
Oui, c'est fini. Il a vraiment été, alors que c'était quelqu'un qui avait envie, en plus, dans sa vie privée à ce moment-là, de se retirer de ses fantaisies fétichistes, comme on pourrait plutôt le présenter. Et on le montre du doigt, et c'est vraiment difficile. Il y a survécu, en fait, 5 ans, hein, pas davantage.
Pas plus, oui, parce qu'il se fait quitter par Vanda. Enfin, il s'est déjà fait quitter par Vanda. Vanda va l'attaquer, menacer, comme ça, de raconter sa vie avec lui, ce qu'elle va faire, d'ailleurs. Et toute son œuvre sera éclipsée par son roman masochiste.
C'est vrai. Et quand on parle aujourd'hui de Zahra Mazor, on ne connaît pas grand-chose. On connaît Vénus à la fourrure. Ouais. Il y a un certain nombre. Bah, c'est un petit peu resté. C'est un roman qui est très, on le dit toujours, Anne et moi, c'est un roman qui est très soft. Hein. Quand on le lit, il n'y a pas de description du tout tendancieuse. Ça s'arrête toujours au geste.
Oui.
Bah, voilà,
c'est une sorte de soumission, quoi.
Voilà, c'est ça. Sans plus.
Vous l'avez bien sûr lu, ce livre-là.
Oui, il vaudrait mieux.
Il vaudrait mieux, oui. Dernier Covaldé.
Non, je n'ai jamais lu La Vénus à la fourrure. Non. Mais j'étais pas très attirée par la Vénus à la fourrure.
Par le masochisme.
Non.
Bon, une confidence. Merci beaucoup. Merci Catherine Sauva et Anne Simon. L'homme à la fourrure est paru chez Dargaud pour un public averti, mais c'est assez pudique quand même. Hein.
Oui, je pense.
Oui. Vraiment. Merci à toutes les deux. Merci, à très bientôt. La chronique des coups de cœur et des coups de gueule avec nos libraires. On commence avec un coup de cœur et un hommage, Déborah Damblon.
Voilà, ben écoutez Emmanuel, moi j'ai eu la grande chance il y a quelques années de rencontrer puis d'entendre pendant un colloque le formidable Tommy Ungerer qui vient de nous quitter.
Oui, moi aussi.
Et c'est un artiste vraiment gigantesque et hors norme. Et puis c'était un être humain complètement incroyable. Parce que le jour de ce colloque, enfin avant le colloque, il s'était cassé le coccyx et il se soignait, enfin comment je peux dire, à l'irlandaise. Vous voyez son pays d'accueil, enfin bon, au whisky quoi.
Ah oui.
Donc au moment de son intervention, il était mais complètement torché. Oui. Et puis, il s'est mis debout et il a commencé à nous hurler dessus et à nous exhorter et en nous disant qu'on était des missionnaires de la littérature jeunesse. Et c'était, mais fabuleux, fabuleux. Alors, mais promis, Tommy, aujourd'hui, plus que jamais, je vais remplir ma mission et je vais tout mettre en œuvre pour faire lire les jeunes, à commencer par leur raconter vos histoires éternelles.
Parfait. Et avec un petit whisky. Allez, on vous l'accorde, Déborah.
Allez, oui.
Un seul.
Merci, Emmanuel.
Un coup de gueule en Suisse, Dominique Bressoux.
Oui, moi, pour changer, je vais encore râler sur la promotion des livres.
Râler.
Ou plutôt sur la promotion que se croient obligés de faire certains auteurs, un peu comme des chanteurs à la mode, en fait. Il y a un petit côté peopleisation qui est au mieux ridicule et, à mon avis, au pire nuisible pour eux et pour nous.
Vous pensez à qui?
Oh, bah non, je ne vais pas vous donner
de
nom.
Ah, bah si. Si, un petit nom.
Véronique. Laissez-moi continuer, vous allez voir. Parce que, en fait, si, quand vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple, vous apprenez plus de détails sur la couleur du chat ou le nom du chat de l'auteur ou son lieu de vacances que sur son écriture, le but ou non qu'il poursuit en écrivant, ben moi, ça me crispe. Remarquez, en même temps, c'est souvent qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur son livre, en fait.
Voilà, Emmanuel,
bon, voilà, c'est dit. Pardon, Véronique.
Moi, j'ai pas de chat et je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez.
Ce n'est pas vous.
Hein,
je sais pas, moi, je pose des questions, vous savez. Bon, allez, un autre coup de gueule pour la France en Martinique, Anne-Rosine Vosa.
Oui, alors là, mon coup de gueule, je vais encore râler, mais je ne suis pas contente parce que je trouve que les DOM, c'est tantôt la France et tantôt l'étranger. Il y a quelques semaines, un client m'a demandé de lui commander un livre. Et donc ce livre n'était disponible qu'en impression à la demande. Donc je me tourne vers l'éditeur qui me répond « Désolé, ce livre n'est pas disponible à l'export à l'étranger.
Ouais. »
Donc je dis « Mais on n'est pas étranger. » Voilà, donc c'est juste ça qui est révoltant et c'est des pratiques qui ne devraient plus être possibles encore.
C'est scandaleux et il y a un autre scandale, je l'ai déjà dit à l'antenne, c'est quand on revient de Martinique, de Guadeloupe ou de La Réunion et qu'on arrive à Paris par exemple, à l'aéroport d'Orly, on est considéré comme venant de l'étranger puisqu'il y a le contrôle de douane et qu'on fait une heure de queue comme si on arrivait des États-Unis, de la Colombie ou d'ailleurs et c'est absolument scandaleux. Il faut le dire à chaque fois que vous arrivez, à force, ils vont peut-être comprendre. Merci beaucoup.
J'espère.
Merci Anne-Rosine Vosa. Un coup de cœur francophone pour le Canada depuis la Foire du Livre de Bruxelles, Josiane Letourneau.
Oui, en fait, autour du recueil des nouvelles de Ayavi Lake, cette auteure québécoise d'origine sénégalaise et son recueil qui s'appelle Le Marabout. Déjà, la couverture est magnifique. Et on parlait tout à l'heure du double mouvement qui est celui de la lecture et à quel point il peut nous porter à avoir un regard à l'intérieur de nous pour nous interroger sur le regard que nous avons sur les autres. Alors, c'est exactement dans cet état d'esprit-là qu'Ayavi Lake nous écrit ce marabout qui va voler la peau d'une femme blanche. Alors, cette image très forte, en fait, autour duquel s'articulent toutes les nouvelles. Honnêtement, c'est un très beau recueil, très intelligent, qui questionne le nous québécois dans lequel les immigrants se sentent pas toujours inclus.
Le Marabout, c'est aux éditions VLB. Merci Josiane, bonne Foire du Livre de Bruxelles avec Déborah.
Merci.
Vous représentez la librairie francophone, on salue la Foire du Livre qui célèbre son 50e anniversaire. Merci beaucoup, à bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone, voici la jeune chanteuse française Alma Forer. Alma Forer, Conquistador, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Abonnez-vous à Instagram pour découvrir les coulisses de l'émission, entre autres. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet et Fabrice Lègle, avec Stéphane Beaujat et Gilles Gaillard, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone. Bon week-end et bonne semaine à tous. We'll be right back.